Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
À Cube Radio, vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel en remplacement de Geneviève Peterson.
Vous m'avez entendu en parler en début d'émission. Je parlais des salaires des élus. Aujourd'hui, on a appris, on a eu accès à la longue liste des salaires des mandarins de l'État, puis force est de constater qu'il y en a plusieurs qui sont dans le club select des 300 000 $ de plus. Plusieurs font partie évidemment du 200 000 $ et plus. Et la question qui s'impose, à tout le moins que je me suis demandé en lisant ça ce matin, c'est comment se fait-il que le premier ministre du Québec, celui qui est le boss de tout ce beau monde-là, gagne moins que la grande majorité d'entre eux. Pour nous en parler, on a avec nous Marc Chartrand, conseiller principal chez PCI Rémunération Conseil. Bonjour, Monsieur Chartrand.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous avez été aussi choqué que moi ce matin?
Non, pas vraiment, en fait. Pas vraiment. Je pense que c'est la raison principale de ça, c'est que ça répond à des impératifs très différents. Dans un cas, le politicien... Les politiciens, puis peu importe les niveaux, là, que ce soit municipal, provincial, fédéral, leur rémunération vise à refléter un peu ceux qu'ils représentent. Donc, comme ils sont des élus, c'est vous parlez du premier ministre du Québec, par exemple, dans le fond, c'est l'ensemble de la population du Québec. Et si la population du Québec était prête à payer 598 560, qui est la rémunération de Mme Brochu à la tête d'Hydro-Québec, je sais pas ce que les gens diraient de ça, je sais pas si certains diraient bon, que ça mérite certainement une rémunération comme celle-là. D'autres diraient que c'est beaucoup trop, ça n'a aucun sens. Alors, au niveau des élus, on essaie de trouver une rémunération qui génère un certain consensus compte tenu des responsabilités. Puis je trouve ça intéressant ce que vous soulevez parce que la semaine dernière, on parlait beaucoup des élus municipaux. Puis il y en a qui trouvent que les élus municipaux gagnent trop d'argent. Et pourtant, dans certains cas, là, c'est la rémunération des élus municipaux. Oublier les grandes villes du Québec est assez faible, oui, là, en général. Donc, je pense que c'est... Alors que si vous prenez ceux auxquels vous faites référence, les 300 000 $ et plus ou les 200 000 $ et plus, puis il y a des nuances là-dedans, mais je regardais là, la liste des 4 ou 5 premiers. Ce sont tous des gens qui... Pour occuper ces emplois-là, ont dû être chef d'entreprise dans des entreprises du secteur privé pour la plupart. Sophie Brochu vient d'Énergie, Charles Lemont vient de Scotia, Guy Leblanc était dans un cabinet comptable, Louis Morissette dans un cabinet d'avocat. Alors, on cherche à attirer des gens qui ont fait une carrière dans d'autres milieux que le milieu politique. Fait que oui, à la face, ça peut sembler, comment ils peuvent faire 2 ou 3. Puis comme vous le savez aussi, il n'y a pas leur rémunération variable.
Non, là, c'est ça.
Charles Lemont, 550 000.
C'est pas vraiment son salaire, là.
C'est ça, exactement. En tout cas, c'est son salaire.
C'est son salaire, c'est pas sa rémunération. C'est ça.
C'est ça, exactement.
Mais Monsieur Chartrand, quand je regarde Michel Lamarre, PDG du CIUS de la capitale nationale, à 311 812 $ et que je compare ça avec le premier ministre, ou que je compare ça avec Christian Dubé, qui est son boss, ultimement, il y a quand même une grande disparité.
Ouais. Ouais, mais ça c'est effectivement c'est les cas. Quand je disais tantôt, il y a des nuances parce que il y a beaucoup de ceux qui gagnent qui ont des salaires élevés qui sont en fait des sociétés d'État à vocation commerciale, là, comme la Caisse de dépôt ou la SAQ, oui, ou Hydro-Québec. Après, vous avez effectivement des gens qui ont une carrière, je dirais, soit dans la ou dans la fonction publique ou très proche comme le COSUM ou le CHUM. Le CHUM n'est pas mentionné là, mais c'est effectivement... Je pense que ces cas-là, ça soulève... Mais ceux que vous voyez aussi, comme Mme
Opatrini, qui a 360 000 aussi.
Oui, c'est ça. Mais elle est médecin de formation. Alors, en fait, elle est une médecin, je
exact.
Pense. Vous avez la même situation avec quand on parlait de Dr Arruda. Ben, ce sont des médecins. Alors, c'est sûr qu'eux peuvent se dire je peux aller occuper une fonction de sous-ministre adjoint en santé, mais je pourrais aussi pratiquer la médecine, puis Mais là, vous savez, c'était le niveau, non?
C'était le cas de Philippe Couillard, qui était médecin neurochirurgien également et qui était premier ministre du Québec, mais lui n'avait pas ce salaire-là à 360 000 $ lorsqu'il était premier ministre du Québec. Et c'est là où je me demande la question, au Québec, peux-tu parler d'argent? Peux-tu parler de rémunération? Peux-tu parler de salaire? Puis on peut-tu en parler de manière positive pour ceux qu'on veut qui nous représentent à la hauteur de leur talent, à la hauteur de leurs compétences, qu'on veut attirer du monde qui sont pas là nécessairement pour l'argent, mais qui veulent pas nécessairement diviser leur salaire par 2, par 3, par 6, par 20 pour venir servir le Québec avec tout ce que ça représente comme effet négatif?
Ah ben je vous appuie. Je pense qu'on devrait au moins pouvoir avoir une discussion. Cela dit, quand vous regardez les gens qui sont aujourd'hui au gouvernement, là, puis sans faire de politique, puis sans juger de la qualité de leur travail, si vous prenez M. Dubé, M. Fitzgibbon, M. Legault,
oui.
Je nomme ceux-là qui viennent du milieu des affaires puis qui faisaient beaucoup plus d'argent quand ils œuvraient dans le milieu des affaires, ils ont quand même pour le service public, pour ce que la politique donne comme pouvoir, occasion d'influencer la société, fait ce choix-là. Denis, Dr. Couillard, même chose, il avait choisi de faire. Je pense qu'on peut toujours se demander, je pense que la rémunération des politiciens à ces niveaux-là n'est pas effectivement très élevée. Cependant, est-elle suffisamment élevée pour nous permettre d'attirer des gens de qualité? Bon, il y en a qui feront toujours le choix de pas y aller, mais probablement pour d'autres raisons que la rémunération. Puis quand on regarde d'un gouvernement à l'autre, il y a toujours des gens qui ont consigne qui faisaient beaucoup plus d'argent avant d'aller en politique, qui ont fait le choix pour un ou deux mandats d'y aller. Tu sais, alors après, c'est l'ensemble des citoyens qui paient pour leur rémunération, mais c'est sûr qu'il n'y a absolument rien de scandalisant dans la rémunération des politiciens.
Non, ils font pas pitié, mais on peut quand même se poser la question, même s'ils font pas pitié, si pourquoi on accepte que servir le Québec, mettre sa face sur un poteau, que le courage politique, c'est à peu près le seul métier où sa rémunération n'a rien à voir avec la valeur du marché.
C'est ça.
Puis la question que je me pose depuis ce matin, puis j'aimerais ça que vous m'aidiez à la comprendre, c'est quoi la différence entre le PM du Canada à 371 600 puis premier ministre du Québec? C'est quoi la différence entre député provincial puis député fédéral quand c'est le double de la rémunération? Puis quand t'es ministre, j'ai de la misère à concilier ça. Quel message on envoie quand il y a une aussi grande disparité pour des fonctions aussi semblables?
Ouais, je pense qu'il y a effectivement. J'aimerais ça vous aider. Là, je pense qu'au Québec, là, vous l'avez dit tantôt, là, au Québec, on a une certaine sensibilité à discuter d'argent et de rémunération. Je pense que ça relève de la vieille histoire du Québec, malheureusement. Je pense que je peux comprendre que le premier ministre du Canada gagne plus qu'un premier ministre provincial. Je sais pas juste du Québec, mais est-ce qu'il doit gagner 80% de plus,
c'est
comme
ça.
C'est le cas aujourd'hui. Ça, je suis vraiment pas sûr de ça, effectivement. Parce qu'il y a, après ça, il y a des champs de juridiction provinciale, d'autres sont de juridiction fédérale. Reste qu'un pays, après, bon, toutes les organisations internationales sur lesquelles on siège, le rôle que ça donne au Canada. Mais, effectivement, est-ce que 150 000 $ de différence, c'est justifié? C'est une très, très bonne question. Puis je pense qu'on devrait être capable de discuter de ça aujourd'hui, la rémunération des policiers. Puis à chaque fois qu'ils ont à le faire, c'est qu'ils sont un peu mal pris. Ils vont voter ça à l'Assemblée nationale. Alors, ils votent leurs propres augmentations. Si on comprend pourquoi ça fonctionne comme ça, là, mais ça reste un enjeu quand vient le temps de. Puis là, vous avez toutes sortes de monde parce qu'il y a des gens. Ceux que vous donnez, ce sont tous des gens qui faisaient beaucoup plus d'argent dans le passé.
Ben oui.
Mais il y a aussi des politiciens
qui font plus d'argent en politique.
Ah, en tout cas, c'est ça. Ou qui en faisaient pas, c'est des niveaux semblables. Donc, mais je pense qu'on devrait débattre de ça. Puis le jour, pour moi, le signe clair, c'est le jour où on aura de la difficulté à attirer des gens en politique, des gens de qualité là, pour nous représenter, ben, je pense qu'on pourra se poser la question. Puis c'est la même chose quand on parlait de c'est un autre niveau, mais les municipalités, vous payez un maire 12 000 $ par année, là. Honnêtement,
il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit bien à temps plein, là.
Bon. En tout cas, il ne sera pas à temps plein, ça, probablement pas, puis il va probablement, ou elle va probablement être une retraitée. Je veux dire, par la force des choses, payer 12 000. Je pense que ça, effectivement, la rémunération que vous offrez va vous va justifier, tu sais, ben, va justifier, ben, va avoir une influence sur qui vous allez attirer. Puis après, ben, faut trouver le niveau qui est approprié là-dedans. Puis il y en a qui ont des gros, qui ont eu, tu sais, dans le fond, c'est intéressant parce que vous parliez de M. Dubé tantôt. Ben, M. Dubé était à la Caisse de dépôt.
Oui.
Il était pas le numéro un de la caisse, mais mettons qu'il était le numéro 4 ou 5. Donc, il avait une rémunération probablement 2-3 fois plus élevée qu'il avait. Puis, avant d'être à la caisse, il faisait plus d'argent.
Absolument.
Ben, après, il a fait le choix d'aller diriger, probablement le ministère où c'est le plus complexe à gérer au Québec. Alors, je pense que c'est du service public. Puis, ces gens-là méritent notre respect et non, en tout cas. Moi, j'ai du respect pour
ça. Ah, ben, moi aussi. Je les ai côtoyés de très près, les politiciens. J'ai vu le cœur qu'ils y mettent, le nombre d'heures qu'ils y mettent, les sueurs et du jus de cerveau qu'ils y mettent. Puis souvent, pour pas récolter que des merci, souvent pour récolter les pots et les critiques. Et ils se relèvent le lendemain puis continuent. Pas beaucoup. Je sais que ça fait pas de pitié à personne, là, le salaire, quand je parle de centaines de milliers de dollars, mais c'est pas beaucoup compte tenu de tout ce qu'ils vivent.
Oui, mais vous savez, je suis d'accord avec vous. Là, je trouve ça intéressant qu'on présente 200 000 aujourd'hui parce que avant on parlait de 100 000 dollars. Savez-vous combien il y a de policiers au Québec qui gagnent plus que 100 000 dollars?
Beaucoup.
Ben, c'est ça. Alors, à un moment donné aussi, faut s'ajuster à l'air du temps. 100 000 $ il y a 30 ans, c'était beaucoup d'argent aujourd'hui. Alors, même 200 000 aujourd'hui, c'est de l'argent. Je suis pas en train de dire que c'est pas de l'argent, mais faut mettre les choses un peu en perspective aussi. Là.
Mais là, j'ai une question pour vous. Là, on va dire là que nos politiciens nous écoutent. Là. Le premier ministre qui nous écoute ou son chef de cabinet nous écoute en direct, puis ils disent, OK, on veut bien, c'est important peut-être d'avoir cette conversation. On peut pas vraiment nous l'avoir. Quel mécanisme devrait-on mettre en place pour ouvrir cette discussion de manière non partisane? Est-ce que c'est un comité indépendant constitué de experts et des représentants de la société civile qui a un pouvoir consultatif ou un pouvoir exécutif? Qu'est-ce que vous leur conseillez si vous pouviez leur parler là?
Ouais, si je pouvais leur dire. Bon, je pense que la rémunération des juges est un peu sur une forme comme celle-là. Là. Je maîtrise pas tous les détails de comment la rémunération des juges est décidée, mais il y a un comité indépendant qui se penche là-dessus. On regarde comment les juges sont payés dans notre société au Québec, mais comment ils sont payés par rapport à d'autres juridictions pertinentes. Et je pense qu'il pourrait y avoir un comité d'indépendants qui avec effectivement des représentants de la société civile, peut-être des experts dans le domaine de la rémunération des ressources humaines, plus des gens qui ont peut-être donné du service public puis qui se pensent là-dessus puis qui fait une recommandation à l'ensemble de la députation de l'Assemblée nationale. Là, et je pense que ça enlèverait le poids un peu injuste aux élus eux-mêmes de dire ben je me suis voté une augmentation comme député de X à Y. Puis je pense que ça permettrait aussi, parce que tu sais, évidemment, il y a d'autres avantages qu'ils ont que des fois on va pas dans le salaire, là, comme il y a sûrement des arrangements de retraite qui ont une valeur assez importante. Je sais pas qui sont pas justifiés.
Mais qui rentrent dans un package là.
Ben c'est ça, exactement. Fait que ça permettrait d'avoir, je pense, une vue d'ensemble de la rémunération globale. Puis de peut-être de rendre le débat un petit peu plus moins partisan, puis avec différentes considérations compte tenu qu'il y aurait différents représentants sur un tel comité indépendant, par exemple.
Merci beaucoup, Monsieur Chartrand, pour votre éclairage. Je rappelle, Marc Chartrand est conseiller principal chez PCI Rémunération Conseil.